Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le second livre des rois, le second livre des rois et au chapitre 5. Deux rois, chapitre 5, et nous allons lire les premiers 19 versets. Un récit qui est calé là dans l'Ancien Testament et qui est là pour notre instruction, hein. Et donc nous allons... Nous avons déjà demandé au Seigneur de nous instruire. Donc je vous donne le temps d'y arriver. Deux rois, deuxième épître, deuxième roi, chapitre 5, et à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais qu'il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai devant la maison de Rimmon. » L'Éternel lui dit « Va en paix ». Rimmon, c'était la divinité syrienne. Et donc, par sécurité, comme il était le bras droit du roi, c'était une sécurité de savoir où il était quand le roi était dans le temple. Et donc, il devait se prosterner. Il a dit que Dieu me pardonne. Quand je me prosterne, ce n'est pas pour adorer, c'est par devoir. Et donc, le roi l'a excusé, le prophète l'a excusé. Lorsque nous lisons cette histoire, la première chose, c'est que c'est une histoire. Et puis souvent, elle est racontée aux enfants dans l'école du dimanche. Et elle est toujours intéressante parce que les enfants, ils aiment toujours des histoires où ce sont les petits qui rendent service à des grands. C'est une faiblesse qu'ils ont. Et puis, ils aiment toujours l'histoire de David et Goliath. C'est le petit qui est vainqueur du grand. C'est toujours parce qu'eux, ils sont toujours les petits. Ils s'identifient avec le petit. Et là, c'est la jeune fille qui, elle, apporte une réponse au grand général. Mais tout ça, ça peut y nourrir l'imagination, mais je suis sûr qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles nous avons ce récit dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas seulement pour nous parler de cette petite fille, même si c'est extraordinaire que Naaman, le général, il tienne compte et qu'il écoute ce que dit la petite fille. Parce qu'il aurait pu dire, mais quand même, je l'ai pris esclave, je l'ai emmené de son pays. Peut-être c'est un piège, on l'envoie là-bas, mais en fait, c'est un piège, une manière de se venger. Il aurait pu penser ça. Mais apparemment, cette petite fille, son comportement dans la maison était tel qu'il a fait confiance. C'est déjà quelque chose. Et alors que personne n'avait jamais entendu parler d'un lépreux qui était guéri, eh bien, lui, il entretient cette possibilité, cette espérance. Petite parenthèse, la lèpre de l'époque, la lèpre qui est mentionnée dans la Bible, ce n'est pas la lèpre dont on parle aujourd'hui. La lèpre de l'époque, c'était une maladie de la peau, et ça se répandait sur tout le corps, et c'était très contagieux. Tandis que la lèpre d'aujourd'hui, dont on entend parler encore dans certains pays, c'est une maladie des nerfs, des nerveux. Où on perd la sensibilité et éventuellement les extrémités, on perd l'usage des extrémités du corps. Une autre parenthèse, je vous fais remarquer, c'est que lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament et que Moïse donne les instructions sur la lèpre, eh bien il dit, dès que vous constatez qu'il y a la lèpre, eh bien, vous isolerez le lépreux. La quarantaine n'était pas une notion qui était connue. L'homme n'était pas arrivé à la connaissance du principe de l'infection, la propagation des infections, et donc l'importance de la quarantaine. En fait, c'est très récent. En médecine, c'est quelque chose qui a été découvert seulement dans les années 1800, par là. C'est très récent. Alors, la question, c'est comment est-ce que Moïse a su cela, si ce n'est par révélation. Rien que le simple fait que Moïse ait parlé du principe de la quarantaine, alors que l'être humain ne le savait pas, j'en ai parlé une fois à un médecin, il m'a dit, c'était à l'époque, ils avaient des connaissances qui ont été perdues entre-temps, puis on les a redécouvertes. C'est une manière de s'en sortir. Je reviens à l'histoire, là, donc ici, nous avons cette histoire et la première lecture, c'est une lecture intéressante, et la première chose que nous voyons, c'est la lépreux qui est guéri. C'est déjà extraordinaire. Mais pourquoi tant de détails? Pourquoi nous parler de tout ce qui s'est passé s'il n'y avait pas d'autre chose? Il aurait pu dire en deux versets, il y avait un lépreux, puis il est allé voir le prophète l'a guéri, et il a donné gloire à Dieu, comme certains miracles de l'Évangile. Pas mal de miracles, il n'y a que deux, trois versets, et c'est tout. Et là, il y a tout un passage, Et en plus, il s'agit d'un non-juif, c'est quelqu'un, un général étranger qui est mentionné. Et moi, quand je vois ça, et quand je vois que la Bible part dans les détails pour une histoire, alors qu'il s'agit d'un livre d'histoire, hein, c'est les récits des rois, et là, il n'est même pas roi d'Israël, il n'y a rien du tout, et on part dans les détails, je dis, mais il doit y avoir des principes et des règles là, il faut relire et lire et relire plusieurs fois. Et une chose que je remarque, et c'est, je veux attirer votre attention là-dessus, c'est que, vous savez qu'il y avait un moment critique dans cette histoire. Hein, le début, ça se passe bien. Naaman est lépreux. Apparemment, il en a parlé à sa femme. Sa femme, elle commence à se faire du mauvais sang. La petite servante là, dont on n'a pas le nom, eh ben, elle sent que sa maîtresse est préoccupée par quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Et puis, la petite, elle entend parler de la lèpre. Elle dit, mais s'il allait en Samarie, s'il allait dans le pays d'Israël, eh bien, le prophète pourrait le guérir. Et là, en passant un détail, c'est que on n'a jamais entendu parler d'un prophète guérir un lépreux. Je ne sais pas où elle a eu ça, sinon cette idée que Dieu peut tout. Et elle avait cette foi d'enfant, et bien, n'est-ce pas le Seigneur qui nous dit, il dit, à moins que vous deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Mais elle avait compris, et là, je mets un compliment sur ses parents, hein, parce que ils l'ont éduquée, ne sachant pas qu'elle serait emportée un jour, ils l'ont éduquée, ils lui ont donné confiance en le Dieu d'Israël, au point qu'elle puisse dire, parce que vous vous rendez compte, hein, si jamais elle raconte des bêtises, vous savez ce qu'on arrive aux petites esclaves, si on se moque du maître, c'est grave, elle a pris des risques. Mais elle était sûre d'elle. Il dit, si il va voir le prophète qui est en Israël, eh bien le guérira. Bon, il y a des choses qui se perdent. Hein. Vous savez comment c'est le téléphone entre les humains. Il y a des choses qui sont perdues en cours de route. Le temps qu'il arrive auprès du roi, il dit que la lettre, c'est pour le roi. On a oublié que c'était le prophète qui est en Israël. C'est devenu, la lettre est faite pour le roi. Et donc le roi, lui, il comprend rien. Mais heureusement que Élisée est là. Et dit au roi, écoute, pourquoi tu paniques? Il vient pour implorer le Dieu d'Israël, et toi, tu prends ça personnellement. Ben, envoie-le vers le prophète de Dieu. Quel reproche. Hein, combien de fois, vous savez, nous aussi dans nos vies, hein, des situations arrivent, et puis tout d'un coup, c'est la panique. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas pensé à Dieu? Pourquoi la première chose, c'est tu penses à tout sauf Dieu? Et quand on arrive, on ne sait plus où aller. Alors là, on lève et on dit, Dieu, dans ta grâce, interviens. Mais le prophète Élisée, donc au verset 8, il dit, eh bien, envoie-le chez moi. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi ta panique? Il vient trouver le Dieu d'Israël, il demande une chose, envoie-le, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Plus tard, on verra qu'il y a plus qu'un prophète en Israël. Il verra qu'il y a un Dieu vivant en Israël. Et alors, Naaman arrive, et puis il arrive devant la porte, il a l'adresse, il arrive devant la porte, et c'est pas le prophète qui sort. Il envoie un serviteur qui a l'air tout ordinaire, hein, et la maison, certainement qu'elle était très ordinaire, et le serviteur sort et puis il donne le message. Il dit, écoute, tu plonges 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Au revoir, puis s'en va. Non, on ne l'a même pas bien reçu, on ne l'a pas honoré. Et puis en plus, on lui dit dans cette rivière boueuse là, de aller se tremper, mais ça ne va pas. Et vous savez, le moment critique là. Le message est donné, le message est clair, il est compris. Mais quelque part, ça risque de ne pas se passer. Là, c'est le moment critique. Naaman, il dit, moi, je me disais, regardez au verset 11, et c'est là le problème. Il dit, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Il avait déjà fait tout son scénario. Hein, c'était déjà préenregistré. Il avait des idées. Je vais employer le mot qui a été utilisé tout à l'heure dans l'une des prières, une idée préconçue. Il a déjà dans sa tête, il a déjà décidé comment Dieu va faire les choses. Et parce qu'il a dans sa tête déjà une idée de comment Dieu devrait faire les choses, eh bien, il risque de ne pas être guéri. C'est très grave. Idée préconçue basée sur rien du tout. La petite fille, certainement qu'elle avait pas, elle avait rien dit. Mais lui, de par ce qu'il avait vu chez les religieux, de ce qu'il a vu, les rituels dans les différentes religions, tout ça, eh bien, il a dû se dire, ben, il va venir, il va faire des incantations, il va faire peut-être des vapeurs, des encens, et puis, tout, vous savez, tout ce qui va avec, hein, comme vous voyez toujours au cinéma. Hein. Et lui, là, et parce que ça ne se passe pas comme ça, et puis on lui donne une réponse vraiment du n'importe quoi, eh bien, lui, il est pas seulement qu'il n'accepte pas, mais en plus, il est fâché qu'on ne l'a pas reconnu. C'est quand même monsieur le général, hein. Et puis, il a des capacités. Et il a déjà eu des victoires. Et il n'est pas reconnu. Mais la grande chose, le grand problème, c'est que dans sa tête, il a déjà une idée. Et c'est comme ça que Dieu doit faire les choses. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et parce que ce n'est pas comme ça, eh bien, vous rendez compte ce qui serait passé s'il était rentré ? Il rentre, il retrouve la petite fille, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Il dit, tu t'es moqué de moi. Il dit, n'importe quoi, tu m'envoies là-bas. J'étais m'humilier devant les gens. J'étais voir dans un quartier populaire, une petite maison pauvre là-bas, et puis on s'est moqué de moi. Et c'est ça que tu as voulu. Vous pouvez imaginer, on vous laisse, hein, vous mettez dans le cadre de l'époque. Même de nos jours, hein, ce ne serait pas beau. Et vous savez, mais c'est un problème, combien de personnes se privent de la grâce de Dieu parce qu'ils ont déjà des idées préconçues de comment Dieu devrait faire. Voilà, si je prie, si je sais, eh bien Dieu devait me recevoir. Ou si j'adhère à une certaine religion, bien si dans ma tête je conçois un Dieu, eh bien, et je lui offre un moule dans lequel il doit s'installer, et s'il remplit bien mon moule, eh bien je le suivrai. Et chacun a son idée de comment Dieu devrait être. Hein. Vous voulez faire le journaliste, allez là-bas sur le long de la mer et commencez à demander aux gens comment vous voyez Dieu. Hein. Vous allez avoir autant de réponses que de personnes. Et peut-être pendant la conversation avec la personne, elle va changer d'idée. Mais combien, parce que Dieu ne correspond pas à l'idée qu'ils se font de Dieu, eh bien ils le rejettent. Et ils se privent de tout ce qu'il offre, de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, dans la prière et dans la louange et tout cela, on se prive de tout cela. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas à ma manière de voir. Et là, Naaman a couru le risque, avec toute son intelligence, avec son expérience, sa position, sa noblesse, mais il court le risque de ne rien recevoir de Dieu. Et même de rentrer et commettre une injustice, rien que parce que je me disais que, moi je croyais que, moi je pense que, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi j'ai mon idée, j'ai fait mes lectures, j'ai fait mes recherches, j'ai réfléchi avec ma petite tête, et voilà ce que je pense. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui s'adapte à notre moule. Et combien vont se perdre parce que Dieu ne va pas. C'est impossible. Vous savez, heureusement que Dieu n'écoute pas toutes nos prières concernant le climat. Vous savez, il y en a un qui vient de planter son jardin, il dit « Seigneur, fais pleuvoir parce que je viens de semer ». Et un autre, il dit « J'ai prévu un pique-nique ». L'autre, il a dit « Moi, j'ai un mariage ». Qui en fait à l'extérieur, l'autre il a autre chose. Si Dieu devait écouter chacun pour plaire à chacun, mais ça irait pas. Heureusement que nous on n'a aucune influence sur le climat. même si on se plaint. Mais heureusement pour nous. Alors vous imaginez, en plus, parce que le climat en Corse, c'est une petite chose. Hein, il peut se débrouiller, bon, il fait pleuvoir la nuit, puis le soleil le jour, et puis on pourrait négocier des choses peut-être. Mais Dieu se le redessiner, que chacun se le redessine pour lui, et faire quelque chose qui lui convienne en fonction de sa culture, en fonction de son expérience, en fonction du papa qu'il a eu, qui a un mauvais exemple. Donc moi, je n'aime pas cette idée de Dieu père, parce que mon père était terrible. Vous savez, il y a toutes sortes de réactions. Et puis l'autre, il dit, moi, je ne suis pas, je veux pas ni homme ni femme, moi, je veux un Dieu neutre. Et puis, vous avez toutes sortes de choses qui circulent. Et l'autre, il dit, non, Dieu, il parle seulement en une langue. Et puis l'autre, il dit, non, c'est cette langue-là. L'autre, il dit, vous savez, c'est fou ce qu'il y a. Hein. Et puis si vous deviez faire le tour, revoir toutes les pensées, les religions, rien qu'en France, eh bien, vous ne vivriez pas assez longtemps. Heureusement que Dieu est ce qu'il est. Et il s'est révélé. Il a dit, moi, j'étais là avant vous. Je suis ce que je suis. Et je suis tout ce que vous avez besoin. Est-ce que vous êtes prêt à me recevoir? Moïse dit à Dieu, et puis écoute, d'accord, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, mais eux, ils ne se souviennent plus, hein, ils ont plus. Jacob, c'est loin. Hein. Il dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, dis-leur, je suis celui qui suis. C'est-à-dire que je suis tout ce dont vous avez besoin, et je le suis toujours, et je suis toujours dans le présent, et ça ne se termine jamais. Ça vous suffit? Largement. Naaman, parce qu'il s'était dit, eh bien, il viendrait d'une certaine manière, eh bien, le voilà qui s'en va irrité, et il s'en va, il retourne avec rien du tout. Mais heureusement, quand ils arrivent au Jourdain, juste avant de traverser le Jourdain, ils sont là. Il y a des serviteurs, heureusement, vous savez, l'intelligence, heureusement, n'est pas chez seulement les puissants. Hein. Mais il y a des serviteurs qui viennent et disent, mon père, tu sais, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors, mais tu demandes quelque chose de facile, fais-le. Il y avait une sagesse là extraordinaire. Mais pourquoi tu te fais des idées de comment il devrait faire? Pourquoi est-ce que tu te cherches une religion impossible à suivre et tu te donnes des objectifs que tu ne peux pas atteindre, des choses que personne d'autre a atteint? Tu te donnes des idéaux qui sont là au-dessus de ta portée, alors que Dieu te demande quelque chose de tout simple. Et ça a été dit tout à l'heure. Dieu est venu et s'est mis à la portée de n'importe quel enfant, la personne la plus simple. Jésus a dit, oh Père, je te remercie de ce que tu te révèles aux enfants. Il dit, écoute, lâche, tout simplement, tu reconnais ton problème, ta situation, que tu es perdu, et tu demandes à Dieu, tu dis, pardonne-moi mes péchés. Je comprends que Christ est déjà mort sur la croix, donc tu peux me l'offrir gratuitement aujourd'hui. Je l'accepte tout simplement. Et dit, si tu avais demandé quelque chose de difficile, si tu avais dit de jeûner pendant 40 jours, si tu avais dit de faire un voyage jusqu'à un certain endroit où il y a eu un miracle, on dit en tous les cas, si on t'avait dit de tous les dimanches te rendre dans l'église et puis de subir une cérémonie, tu l'aurais fait. Mais tu ne demandes pas tout cela. Il te dit, crois seulement. Reçois simplement ce que je te dis, ce que je t'offre, ce que je te propose. Et ces hommes sont venus vers Naaman et disent, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Si tu avais dit de grimper avec un sac de 100 kilos et de grimper jusqu'au sommet de la montagne, tu l'aurais fait. Alors il te demande de plonger cette fois dans l'eau. Plusieurs sont venus voir Jésus et ont dit, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Quel commandement est-ce que je dois garder? Quelle religion est-ce que je dois suivre? Il a dit, écoute, c'est pas une question de... C'est une question de Dieu te l'offre, mais reçois. Sans rien apporter. parce que tu ne peux rien apporter, tu ne peux rien... Qu'est-ce que tu peux apporter à Dieu? Il a tout. Hein? C'est comme l'enfant qui vous demande un service, dit, écoutez, monsieur, le bus, j'ai raté le bus, je dois rentrer à la maison, vous pouvez me donner l'argent du taxi. Il dit, tout ce que j'ai, et puis il regarde, et puis il sort une pièce de 5 centimes, il dit, vous pouvez m'aider, je vous donne ça. Il dit, écoutez, garde ta pièce, et puis moi, je m'occupe de toi. Hein? J'appelle quelqu'un, ou n'importe... Mais on dit, mais c'est ça, on essaie d'offrir ce qu'on a, tout ce qu'on a. Oui, mais c'est rien du tout par rapport à ce que Dieu a à nous offrir. Nous offrir et ce qu'il veut faire pour nous, on ne peut pas acheter. Et alors, finalement, ces serviteurs, leur argument, il est puissant. Normalement, on n'a rien à dire. Et il descend dans l'eau et il plonge cette fois. Il ressort et puis extraordinaire, il a la peau neuve et puis celle d'un jeune enfant en plus. Toucher la peau d'un bébé, hein, c'est autre chose que la peau d'un général, hein, qui a l'habitude de monter des chevaux et puis, c'est autre chose, hein. C'est pas du rugueux, hein. C'est un homme d'un certain âge. Et là, c'est la peau d'un bébé. Guérison totale. Et alors là, Naaman, c'est un homme changé. Alors là, il ne parle plus comme il parlait avant. Hein. Maintenant, ses idées préconçues sont parties. Parce qu'il les a rejetées. Et je ne sais pas pourquoi il les avait eues, mais en tous les cas, ils avaient failli le tuer, ces idées préconçues, le mener à la perdition. Mais là, il retourne, et c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il arrive chez Élisée, il dit, voici, je reconnais au verset 15, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Voilà. Oh là, il a changé de musique. Hein. Il dit, je me disais, mais maintenant, c'est autre chose. J'ai enfin écouté la simplicité, le message tout simple. J'ai fait confiance, je l'ai testé. Et ça a changé. C'est un homme transformé. Et il n'a pas honte de venir. Et puis là, c'est extraordinaire, le prophète, il sort. Parce qu'il y avait quelque chose. Vous savez, Dieu a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand il était venu, il était sur son char. Mais quand il revient, il est humilié devant le prophète. L'attitude qu'il a pour Dieu, c'est une reconnaissance totale. Et là, c'est un peu la différence entre la religion et la foi. La religion, c'est qu'est-ce que je peux faire de difficile pour Dieu. Comme si, parce que c'était difficile, eh bien, ce serait plus mieux reçu par Dieu. Ou parce que c'est un concept qui est plus compliqué. Je ne sais même pas l'expliquer à quelqu'un d'autre, mais j'ai mon idée de Dieu. Il dit non, non. Il dit, par la foi, tout simplement, fais confiance. Le juste vivra par la foi, nous dit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Tout simplement. Et même Jésus relèvera dans Luc chapitre 4, verset 27, il dira, mais vous savez, à l'époque de Naaman, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et le seul qui a été guéri, c'était Naaman qui était non-juif. Mais c'est le seul qui a cru, c'est le seul qui est venu pour recevoir la guérison. Vous savez, ceux qui sont perdus, ils sont nombreux. Ceux qui ne sont plus perdus sont ceux qui sont venus vers Dieu et qui ont reçu le salut que Dieu offre gratuitement. Vous savez, l'objectif de Élisée, il a dit « fais-le venir chez moi ». Il a dit, parce que je veux qu'ils sachent qu'il y a un Dieu, qu'il y a un prophète en Israël, qu'il y a un prophète d'un vrai Dieu. Et la chose, finalement, le résultat a été obtenu, parce que quand Naaman est revenu, il a dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, sinon le Dieu d'Israël. Vous savez, heureusement que Naaman était délivré de ce qu'il avait conçu dans son imagination. Le prophète devait se présenter lui-même. Le prophète invoquerait le nom de l'Éternel. Le prophète agiterait sa main sur la plaie. Et puis, guérison. Eh bien, Dieu ne fait pas les choses comme nous on veut. Dieu est Dieu. Et n'oublions pas que c'est nous qui sommes dans le besoin. Dieu aurait pu le guérir. Jésus-Christ, combien de fois il a guéri des gens? En touchant. Dieu aurait pu le guérir exactement comme... Parce que c'est pas la méthode qui... Le pouvoir n'est pas dans la méthode, ni même dans l'eau du Jourdain. Parce que Naaman, il a dit, mais bon, l'eau chez nous, c'est quand même plus propre que ce sale Jourdain-là. Mais ce n'est pas l'eau non plus. C'est le fait d'obéir l'ordre de Dieu. L'eau n'avait rien à faire avec la guérison. Le Jourdain n'avait rien à faire avec la guérison. C'était Dieu a dit. La foi, c'est ce que j'entends. Et ce que j'entends, c'est la parole de Dieu. Pour lui, la parole de Dieu, c'est... La parole de Dieu, pour lui, c'était de plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et voilà ce qu'il devait faire. Et rien d'autre. Vous savez, il y avait une époque où il y avait 10 lépreux qui s'étaient criés de Jésus, parce que, bon, à cause de la quarantaine, donc ils devaient crier de loin, ils ne pouvaient pas s'approcher, Jésus, avec la foule et tout ça. Donc ils étaient de loin et disaient « Oh, Jésus !» Et pitié de nous. Il dit, qu'est-ce que vous avez? On est lépreux. Eh bien, écoutez, allez directement voir le sacrificateur selon ce que Moïse vous a prescrit, allez-y. Et ils s'y mettent tous les 10, comme ça, ils prennent la route. Et en route, il y en a un qui regarde, il dit, hey, regarde, c'est parti. Et puis l'autre, il dit, ah, moi aussi. Et puis tous les 10. Et puis ils s'embrassent tous, et puis ah, ils sont contents, tout ça. Ouais, c'est un peu de cinéma que j'ajoute, hein, un peu. Mais c'est des humains. Hein. Et alors, il dit, ah, on est guéri. Moi, je rentre à la maison. Parce que si on est guéri, on peut rentrer à la maison. Et il y en a 9 qui rentrent directement à la maison. Mais il y en a un qui dit, mais qui est-ce qui m'a guéri? Il dit, non, j'ai quelqu'un à voir avant de rentrer à la maison. Il retourne voir Jésus. Il dit, je te remercie. Et Jésus dit, mais ah bon, je croyais qu'il y avait du monde avec toi. Où sont les autres? Il dit, ben eux, ils sont venus pour être guéris. C'est tout ce qu'ils voulaient, donc c'est tout ce qu'ils ont pris. Jésus a dit, ah ben, parce que tu es revenu, tu m'as adoré, eh bien moi je t'offre tout ce que j'ai à offrir. Il dit, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Est-ce que nous sommes prêts à venir à Dieu pour recevoir tout ce qu'il a pour nous? Je ne sais pas ce que tu as à offrir, j'en sais pas long, mais je sais que déjà, quand je t'ai fait confiance pour ce qui est de ma lèpre, tu m'as guéri. Alors je te fais confiance pour tout le reste. C'est un peu Naaman qui dit, ben, il m'a guéri de la lèpre, ben, c'est le seul Dieu dans le monde entier. Vous savez, il généralise, mais là on peut le faire. Hein? C'était un peu les idées préconçues. Il n'y a pas que Naaman, hein, parce que bon, il y avait Marthe aussi. Hein, Marthe qui avait dit, hein, son frère était malade, alors elle avait envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, mon frère est très malade, viens vite. Et puis Jésus, ben, il traîne et tout ça, et puis quand il arrive, elle va lui dire, mais Jésus, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Si tu avais fait comme je t'ai dit, il ne serait pas mort. Mais bon, ben, tant pis maintenant, hein, c'est... Trop tard, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Et Jésus dit, Marthe, si tu tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'elle ne croyait pas encore. Hein? C'est dit, si tu crois, tu n'es pas là. Tu m'aimes bien, oui, je sais. Et tu t'adresses à moi pour guérir, mais pas pour la vie. Moi, justement, j'ai traîné, c'est pour qu'il meure, pour que tu comprennes plus. Parce que j'ai plus à t'offrir que juste la guérison de la maladie de ton frère. Vous savez, des fois, on ne comprend pas le comportement de Dieu. Mais c'est parce qu'il cherche notre bien, il veut nous offrir bien plus. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et bien sûr, elle a dit, je crois. Et il a été ressuscité et ça a été autre chose. Mais vous savez, Naaman, son erreur, c'était ses idées préconçues. Bon, ce n'était pas qu'il avait de mauvaises intentions, hein, ce n'était pas qu'il était pareil. On voit que c'est quelqu'un d'honnête, hein, parce que bon, la petite fille lui avait donné un message, il a écouté. C'est quelqu'un de sérieux, hein, c'est pas la rébellion comme ça. Mais il y avait quand même un petit problème, c'est que les idées préconçues, il voulait que s'imaginer que Dieu ferait des choses d'une certaine manière. Et combien de fois des chrétiens se privent de la joie de voir la main de Dieu dans leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à Dieu de faire les choses d'une certaine manière, et comme il ne l'a pas fait comme ils ont demandé, hein, comme Marthe, eh ben, écoute, tu n'as pas répondu, ben non, qu'est-ce qu'on va faire? Et combien de chrétiens partent, ils claquent la porte de l'église, ils claquent la porte, ils ferment leur Bible et disent, mais Dieu, il n'a pas fait comme j'ai demandé. Et ils se privent de toute une vie et une joie et une paix pour le restant de leur vie sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fait comme ils ont demandé. Vous savez, ce n'est pas uniquement pour le salut, mais ensuite c'est pour toute notre vie chrétienne. C'est cette conviction que si je laisse Dieu faire les choses à sa manière, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si je commence à vouloir faire les choses à ma manière, eh ben, il y aura la même pagaille que s'il y a sur terre. Et si vous ne le croyez pas, lisez votre journal. Jésus-Christ a cherché la volonté du Père. Dans le jardin, alors qu'il savait qu'il devait mourir sur la croix, il dit, Père, tu sais, s'il y a moyen de faire autrement que de mourir sur la croix, j'aimerais bien. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, je suis prêt à le faire. Que ta volonté soit faite. Là, il y a deux messages très forts. Entre autres, le premier, c'est qu'il était prêt à faire et dit, Dieu, tu fais comme tu penses, pas comme je pense, fais comme tu penses. Et deuxièmement, le Père a dû répondre et dit, écoute, je connais aucun autre moyen pour sauver les pécheurs, il faut que tu meures. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, il va falloir, ça te fait mal, mais ça me fait mal moi aussi. Mais on doit le faire parce que c'est le seul moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés. Jésus a dit, bon, on y va. Et autant il a tremblé avant ce temps de prière, autant après il avait de l'assurance. Et il nous dit, son visage était de pierre jusqu'à la croix. Imaginez maintenant, je vous laisse imaginer Naaman qui rentre à la maison, qu'est-ce qu'il va faire avec cette petite fille-là? Waouh! Waouh! Hein? Là, ça va être beau, hein? J'aimerais bien voir ça. Comment il va? Ah, il va l'embrasser jusqu'à lui couper le souffle. Hein? Parce que c'est, tout était là. Il dit, tu m'as sauvé la vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer à la maison? Je t'offre n'importe quoi, tu m'as sauvé la vie. Tout ce qu'elle a eu, elle a eu un peu de foi. Et elle lui a orienté. Et ça a changé sa vie. Or, celui qui nous a parlé de l'amour de Dieu, vous savez, c'est un message extraordinaire. C'est un privilège. Oh, tu m'as dit ce qu'il fallait savoir pour que ma vie change. je sais que c'est Dieu qui m'a guéri, mais je remercie Dieu pour toi. Et sachons reconnaître les choses. Trois choses que je souligne de tout cela. Certains se privent du salut de Dieu, que Dieu leur offre, parce qu'ils ont l'idée qu'il faut accomplir beaucoup de bonnes œuvres pour obtenir sa grâce. Mais s'il faut accomplir beaucoup de bonnes œuvres pour obtenir sa grâce, ce n'est plus une grâce, c'est un salaire. Ce n'est plus un don. Certains ne progressent plus dans leur vie spirituelle parce qu'ils ont une fausse idée de comment l'Esprit de Dieu doit faire son œuvre en eux. Certains vivent dans la déprime parce qu'ils ne voient pas Dieu agir comme ils s'attendaient et ils déduisent qu'il les a oubliés. Et on met tout sur lui alors que le problème est chez nous. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Prenons quelques moments de silence pour méditer et que chacun voit comment ces paroles peuvent correspondre à sa vie. Et déjà, faites une petite prière au Seigneur dans votre cœur que vous achèverez quand vous rentrerez chez vous. Et puis ensuite, je vais prier.